quoi de neuf dans l'IMO ?
radio-imo.fr.
Une émission présentée par Olivier Bureau, président de l'Institut des constructeurs et des promoteurs.
Radio IMO, l'information immobilière.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui M. Antoine Cellier de GRDF. Monsieur Cellier, bonjour.
Bonjour Monsieur Bureau.
La réglementation environnementale, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, et le vif du sujet, c'est la RE 2020. Donc la réglementation environnementale 2020 se rapproche à grands pas. Où en sommes-nous d'un point de vue législatif aujourd'hui ? Est-ce que tous les décrets, les arrêtés attendus ont été publiés ?
Eh bien non, pas encore. Mais là, on est vraiment dans les dernières minutes, on doit être dans les derniers jours même, avant l'annonce par les pouvoirs publics. Donc ce qui est prévu normalement, c'est là début juillet. On est le 1er juillet, donc ça doit tomber incessamment.
Dans les jours prochains.
Voilà. Donc il y aura une publication du décret, un décret qui s'appelle méthode et exigence, qui va décrire l'ARE 20. Et puis après, il y aura d'autres textes qui sont publiés au cours de l'été. Mais ce qui est très important pour les maîtres d'ouvrage, c'est quand bien même les textes sont publiés, c'est surtout que le moteur de calcul dans le logiciel soit disponible pour les bureaux d'études thermiques.
Et ça, c'est pour quand ?
Alors là, on a deux sons de cloche. Le moteur de calcul serait disponible dans les logiciels courant juillet. Au plus tard, il sera disponible en septembre. D'accord. Donc les équipes pourront commencer à travailler de manière très concrète, normalement dès le mois de juillet, avec les logiciels pour pouvoir regarder les positionnements des projets immobiliers.
Parce que pour une application au 1er janvier 2022...
Tout à fait. Dépôt du permis de construire. D'accord. Effectivement, c'est clair que là, il y a un vrai compte à rebours qui s'enclenche. Et c'est pour ça que pour nous, GRDF, en tant que partenaire des maîtres d'ouvrage publics et privés, de la promotion privée, c'est très important. On sera présent dans les 6 mois qui viennent pour vraiment accompagner de notre expertise et de notre présence sur le terrain les maîtres d'ouvrage face à cette courbe d'apprentissage assez considérable qu'est l'ARE 20.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en rappeler les grands principes ?
Ah, les grands principes de l'ARE 20. Alors, il y a trois grands principes. Trois grands principes. Le premier, c'est l'efficacité énergétique. Le deuxième, la décarbonation. Et enfin, le troisième, le confort d'été. Donc, si vous voulez bien, je vais...
Donc l'efficacité énergétique.
L'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ce n'est pas une nouveauté, puisqu'en fait, c'était déjà la RT 2012. L'efficacité énergétique, c'est deux choses. C'est l'énergie primaire. Et c'est le besoin bioclimatique. Besoin bioclimatique, c'est l'enveloppe du bâtiment. Donc là-dessus, l'ARE 20 sera plus exigeante que l'ARE 12. On devra faire un effort supplémentaire sur l'enveloppe du bâtiment. C'est le B-bio.
Mais le B-bio qui, c'était moins 20, moins 30, c'est ce que je dis une bêtise ?
Oui, c'est ça. L'ordre de grandeur attendu est de moins 20 à moins 30% par rapport aux enveloppes qui étaient faites sur des bâtiments RT 12. Donc les bâtiments seront mieux isolés.
Ce qui a provoqué une hausse des coûts de construction.
Et oui, alors ce qui a bien sûr alimenté le débat entre la filière et les pouvoirs publics, c'est sûr, l'ARE 20 va générer une hausse des coûts de construction. Un bâtiment mieux isolé, c'est un bâtiment qui consomme moins d'énergie et c'est quand même le sens de l'histoire. Donc ça, c'est l'efficacité. Là, il y a le besoin bioclimatique. Alors très important, l'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est l'impact que vous avez sur l'environnement quand vous consommez de l'énergie. Ça prend en compte tous les impacts. Et bon, alors l'énergie primaire, on en a beaucoup entendu parler du coefficient d'énergie primaire. En fait, le coefficient d'énergie primaire, ça veut dire quoi ? Quand vous consommez 1 kWh d'électricité, il a fallu plus de 2 kg d'énergie pour produire 1 kg d'électricité, 1 kW. Là où avec le gaz, quand vous avez 1 kWh d'énergie avec le gaz, vous n'en consommez qu'un. Donc c'est pour ça que l'efficacité énergétique, nos solutions gaz sont très bonnes d'un point de vue de l'efficacité énergétique. On consomme très peu d'énergie primaire. Voilà, donc c'est ça aussi qui fait que nos solutions se positionnent bien sur ce critère-là.
Et la décarbonation alors ?
Alors, décarbonation, gros sujet, ça c'est la grande nouveauté de l'ARE 20. Il y a deux types de décarbonation. Décarbonation sur l'énergie, décarbonation sur la construction. Bon, sur les produits de construction, j'en parlerai pas parce que moi je suis là en tant qu'énergéticien. Donc je vais vous parler du carbone énergie. Carbone énergie, chaque énergie a un poids en termes d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc maintenant il est pris en compte et il y a des seuils à respecter dans l'ARE 2020. Donc il y a une progressivité des seuils. En 2020, sur un bâtiment de logement collectif, on devra ne pas émettre plus de 14 kg de CO2 par mètre carré par an. Voilà, il faut faire en sorte. Alors un bâtiment, nous on a fait des simulations déjà quand même, on a essayé d'anticiper les choses. Si vous faites un bâtiment avec un B-bio à moins 30% bien isolé, vous mettez des chaudières individuelles, les chaudières vont consommer très peu. Et nous respectons ce seuil de 14 kg de carbone énergie. Alors après, ce seuil est progressif. Donc les pouvoirs publics nous ont demandé de faire un effort supplémentaire en 2025, où là, il faudra faire 6,5 kg de CO2 par mètre carré et par an. Donc ça, on s'y prépare, clairement. On a des pistes de solutions.
Objectif atteignable.
Voilà, objectif atteignable. Et enfin, le troisième.
Le confort d'été.
Alors, deuxième grande nouveauté de la RE20, le confort d'été, ça veut dire quoi? C'est que il faut que ce logement ne soit pas inconfortable l'été. Donc, on va mesurer l'inconfort d'été en degrés heure. Donc, les degrés heure, c'est le nombre d'heures dans l'année où votre appartement est inconfortable, c'est-à-dire que la température est supérieure à 28 degrés, à peu près en moyenne. Donc il ne faut pas que ça dépasse...
Très inconfortable.
Très inconfortable. Et il ne faut pas que ça dépasse un certain nombre d'heures d'inconfort. Donc c'est fixé à 350 degrés heure et après à 1200 et quelques. Alors là, c'est très important parce que si vous êtes au-dessus des 1250 degrés heure, eh ben, votre bâtiment n'est pas conforme. Vous ne pouvez pas construire.
D'accord.
Donc ça, ce sera vraiment aussi un point très important de regarder que votre bâtiment respecte bien le confort d'été. Donc voilà les trois grands sujets. L'efficacité énergétique, c'est la RT12 en plus exigeant. Le carbone, on vient d'en parler. Hein, il y a le carbone construction, carbone énergie. Et enfin, le confort d'été. Donc ça fait beaucoup de nouveautés.
Comment se situe le gaz ? Dans cette réglementation, parce qu'on a beaucoup parlé. Voilà.
Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, on a étudié la question. Comment se positionne le gaz ? Il se positionne bien. Il se positionne bien sur l'efficacité énergétique. Hein, je l'ai expliqué avant pourquoi.
Oui.
Il se positionne bien sur l'efficacité énergétique. Sur le confort d'été, il se positionne bien parce que tout on sait, il ne génère pas d'inconfort. Les solutions de gaz ne génèrent pas d'inconfort en termes d'inconfort d'été. Et enfin, notre point faible, c'est le carbone énergie. Voilà. Donc là-dessus, on y travaille. On le sait depuis longtemps que quand même, il faut défossiliser, décarboner notre énergie. Donc aujourd'hui, il y a deux grands axes de travail. Hein. Le premier, c'est l'hybridation des solutions. C'est-à-dire, on va hybrider des solutions électriques et des solutions gaz. Le bâtiment 2025, il aura des solutions qui seront hybridées. Et enfin, le deuxième axe de travail, c'est le gaz vert. Parce que le gaz vert, c'est un gaz qui est produit par méthanisation. On méthanise des déchets agricoles. Ça donne un gaz vert qui a un poids carbone très faible.
Le fameux biométhane ?
Le fameux biométhane. Donc ça, c'est déjà une réalité. Hein.
Cette énergie des territoires, finalement.
Voilà, exactement. Aujourd'hui, on a plus de 200 méthaniseurs en France qui fonctionnent et qui injectent dans notre réseau.
Énergie renouvelable.
Bilan carbone, on est à un bilan carbone quasi nul. Puisque c'est vertueux, puisqu'on méthanise de la biomasse. Donc forcément, le bilan carbone global est positif. Il est d'autant plus positif que ça évite...
La biomasse, pour les non-sachants, c'est...
Alors la biomasse, en fait, c'est les déchets agricoles. Les bouts de stations d'épuration sont méthanisables. Et bien sûr, les biodéchets de cuisine. Voilà. Donc ça, le gaz vert, on n'est pas... Aujourd'hui, le gaz vert n'est pas pris en compte dans la première version de l'Aéro 2020. Mais on a bon espoir que cette énergie, qui est déjà une réalité... Aujourd'hui, on a plus de 200 sites qui injectent.
Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que ce n'est pas pris en compte, ça ? C'est étonnant.
C'est parce que je pense qu'on...
C'est l'histoire de lobby ?
Non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une énergie renouvelable qui est ex situ, qui n'est pas in situ. Aujourd'hui, dans le monde du bâtiment, on cherche des solutions sur le bâtiment. La solution doit être dans le bâtiment. Et nous, on est arrivé avec un concept un peu novateur qui est de dire l'énergie renouvelable, elle n'est pas sur le bâtiment, elle n'est pas loin.
Oui, elle est à l'extérieur.
Elle est à l'extérieur, elle est à quelques kilomètres. C'est une boucle locale et il faut le prendre en compte. Donc c'est un concept un peu novateur et comme toute innovation en France, quand il faut les intégrer dans les réglementations, les innovations, ce n'est pas toujours simple. Donc c'est pour ça qu'on a des discussions avec les pouvoirs publics sur comment est pris en compte le gaz vert.
Donc avenir du gaz en maison individuelle et en promotion immobilière, est-ce que c'est différent ?
Oui,
à ce stade,
c'est clairement différent parce que sur la maison, on a un seuil carbone énergie qui est très ambitieux à 4 kg de CO2 par mètre carré par an. Donc là, clairement, on le sait, la chaudière individuelle seule ne permet pas d'atteindre ce seuil. Donc on travaille déjà, on a une des solutions, on appelle ça la pompe à chaleur hybride. Donc cette pompe à chaleur hybride, on est en train de...
Donc c'est les fameuses solutions hybridées en fait.
Voilà, donc il y aura des solutions hybridées pour le logement collectif, mais sur la maison, ben, 2022 c'est demain. Et on a donc des solutions de pack hybride qui sont tout à fait compatibles avec ce seuil de 4 kg. Donc ben, en fait c'est le mariage d'une chaudière et d'une pompe à chaleur. Et l'intérêt de l'hybridation, c'est que la chaudière tourne quand il fait très froid. C'est-à-dire quand le rendement de la pompe à chaleur n'est pas bon, c'est la chaudière qui prend le relais. Et ça, c'est un double intérêt. C'est qu'on y gagne sur la facture énergétique, mais surtout, on soulage le système électrique. Parce que l'hiver, quand il fait très froid, le système électrique est sous tension. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Parce qu'aujourd'hui, tout va bien. Mais demain, on sait que le réseau électrique, entre l'essor de la voiture électrique, le grand carénage nucléaire, les besoins électriques qui vont augmenter de partout, le réseau électrique va être sous tension.
Oui, c'est sûr.
Donc le fait de déployer ces solutions hybrides, où le gaz va prendre le relais au moment où l'ELEC est en difficulté, ça aura beaucoup de valeur.
Très intéressant, effectivement. Et donc en promotion immobilière ?
Ah ben, en promotion immobilière, donc la chaudière individuelle se positionne toujours très bien, comme je disais tout à l'heure. Et puis alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va continuer à travailler avec des hybridations. En 2025, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique, chaudière, mais aussi l'hybridation avec le solaire thermique.
D'accord.
Le solaire thermique a aussi beaucoup d'intérêt dans l'ère 2020. Ce sera une piste sur laquelle on va continuer à travailler.
Est-ce qu'on peut dire un mot sur les lotissements, ère 2020 et lotissements ?
Alors, sur les lotissements dans l'ère 2020, il y a effectivement une petite subtilité dans les textes qui est intéressante. C'est que si vous avez un permis d'aménager avant la fin de l'année, qui est accordé avant la fin de l'année, vous avez une dérogation. C'est-à-dire jusqu'en 2023, vous pouvez construire des maisons avec un seuil carbone à 7 kg et non pas à 4. Donc du coup, si le réseau gaz est déroulé sur ce lotissement, eh bien, les maisons peuvent avoir une chaudière au gaz avec un chauffe-eau thermodynamique. Ça permet d'atteindre les 7 kg. Donc il y a une espèce de dérogation qui est valable jusqu'en 2023 sur les lotissements qui seront validés avant la fin de l'année.
Antoine, merci pour ces échanges et ces éclairages très intéressants. On aura très certainement l'occasion de se retrouver sur les plateaux de Radio Immo. Et je vous dis à très bientôt sur les antennes de Radio Immo.
Et merci beaucoup, Monsieur Bureau. Et puis, avec plaisir pour revenir vous voir.
Merci à vous. Au revoir.
Merci.
Quoi de neuf dans l'Immo ?
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par Olivier Bureau, président de l'Institut des constructeurs et des promoteurs.
Radio Immo, l'information immobilière.